C'est aujourd'hui, à Rencontre Spirituelle, la fête de trois archanges. C'est un sujet difficile aujourd'hui, en cette fin de 20e siècle, parler des anges, des archanges, auprès de certaines personnes. Alors que d'autres, une grande masse des gens, font un retour à la croyance aux anges et tombent peut-être un peu dans un fétichisme et dans des illusions, je le crains. De toute façon, moi personnellement, j'y crois, je n'ai aucun doute là-dessus. De toute façon, j'avais mis d'ailleurs mon entrée à Saint-Benoît-du-Lac en 1944 sous l'égide de Saint-Michel. J'étais entré aux premières vêpres de la Saint-Michel le 28 septembre au soir. 1944, il y a déjà bien longtemps. Si j'étais resté, voyez-vous, ça ferait 51 ans que je serais moine, imaginez. Et alors donc, je suis confiant dans l'existence de cet archange au très beau nom, Michel, qui veut dire en hébreu Michael, qui est comme Dieu. Et je crois que c'est une des convictions les plus profondes que tout croyant de n'importe quelle religion doit avoir, et si les incroyants savaient prendre conscience du sens de ce nom admirable, qui est comme Dieu, leur vie changerait complètement. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Au sujet de Saint-Michel, comme de Saint-Gabriel, de Saint-Raphaël, ce sont les trois archanges qui sont les plus connus. Il y a un texte dans l'Apocalypse qui est assez intéressant. Il est dit, l'Apocalypse, je vous le rappelle, c'est le dernier livre de la Bible, le dernier livre du Nouveau Testament, écrit par Saint-Jean. Livre, pour utiliser un mot à la mode, un peu ésotérique, livre qui comporte des secrets, des sens cachés, livre un peu surréaliste, livre pas facile à lire et qu'il est préférable de lire avec de bons commentaires et une bonne introduction. De toute façon, voici le texte où il est question de Saint-Michel. C'est au chapitre 12 de l'Apocalypse. Trois versets. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges. Mais il n'eut pas le dessus. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Et le dragon fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme le diable et Satan, le séducteur du monde entier. Oui, il fut précipité sur la terre, et ses anges avec lui. Sur la terre, c'est pas surprenant qu'on ait tant de problèmes. Mais c'est un beau texte, c'est un texte plein d'images, où on voit ce grand combat qui se déroule entre le bien et le mal, entre ceux, en somme, qui sont fidèles et qui disent qui est comme Dieu, et ceux qui voudraient se prendre pour des dieux, et qui veulent faire leur loi à eux, et on voit dans quel tourment notre société est tombée depuis qu'ils font de telles choses, hein, de plus en plus, ça a toujours existé de toute façon, depuis des millénaires. Nous avons tendance à penser d'ailleurs que les anges ont été créés dans une vision bienheureuse, totale, mais il n'en est rien d'après l'enseignement théologique du christianisme de grande tradition, que ce soit les orthodoxes ou les catholiques. La sainteté des anges, disent les théologiens, n'allait pas sans une espèce de combat, sans qu'ils la méritent, en fait. Et en effet, celui qui voit Dieu en est infiniment fasciné et n'est en somme plus libre de s'en détourner, car l'amour qui surgit dans le cœur de quelqu'un qui voit Dieu l'attache complètement à Dieu. Or, la liberté, c'est l'essence même d'un esprit et la condition de tout amour aussi. Hein? On ne peut pas aimer si on n'est pas libre. Et c'est donc si on est libre qu'on peut devenir des saints. Et comme nous, bien les anges ont dû passer d'abord par une épreuve, celle du libre choix, nous enseigne la tradition de l'Église. Alors, pour passer par cette épreuve, c'est différent de la nôtre. Nos choix, à nous, les êtres humains, qui sommes faits de chair et de sang, eh bien, nos choix sont tâtonnants, hein? Comme si on était un peu aveugle. On titube tout le long de notre vie. Nous sommes sujets complètement à des reprises, des conversions constantes. Au fond, il faut se convertir à toutes les heures, à tous les jours, hein, à toutes les semaines. Il faut se convertir sans cesse, toujours se retourner vers Dieu, car notre regard est attiré par toutes sortes de choses inutiles. Le choix des purs esprits, des anges, eux, c'est différent d'après l'enseignement. Ce sont des choix définitifs. Ils n'ont qu'une seule décision, dit-on, à prendre, et elle est éternelle. Ils sont tous créés bons, les anges. Ils ont donc connu cette épreuve qui leur a mérité le ciel et l'enfer. C'est l'enseignement. De toute façon, peu importe tous ces enseignements, tous ces mythes, c'est très complexe. Allons donc à la Bible. Et la Bible nous apprend que Michel est le grand prince de l'armée des anges dans la défense du peuple de Dieu. Où est-ce qu'on lit ça? On lit ça dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, au chapitre 10. On retrouve ça aussi dans Jude, dans l'épître de Jude, au chapitre 9. Donc, il est le grand prince de l'armée des anges dans la défense du peuple de Dieu et dans l'aide à l'Église militante et missionnaire. C'est pas une mauvaise idée, au fond, de croire que vraiment un être spirituel, plein d'amour pour Dieu, nous protège et nous aide de façon très particulière. Je suis allé voir dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 328, il est dit que l'existence des êtres spirituels, non corporels, en somme des anges, là, que l'Écriture sainte, la Bible, nomme habituellement ange, est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition. Or, il pose la question dans le catéchisme, qui sont-ils? Ils répondent au numéro 329 avec saint Augustin. Car saint Augustin dit à leur sujet, « Ange désigne la fonction et non pas la nature. » Tu demandes comment s'appelle cette nature? Eh bien, c'est esprit. Tu demandes la fonction? Ange, d'après ce qu'il est, c'est un esprit. D'après ce qu'il fait, c'est un ange. Car ange, ça veut dire, au fond, serviteur, messager de Dieu. C'est ça, un ange. Et si on médite là-dessus, je crois qu'il y a beaucoup d'anges sur la terre, mais ce sont des anges humains, je dirais, qui sont des messagers de Dieu, ceux qui portent la charité du cœur de Dieu auprès des plus pauvres. Et on dit souvent, « Ah, c'est un ange. Oh, cette religieuse est un ange. Cette mère de famille, c'est un ange. Oh, ce père de famille, il est extraordinaire, c'est un ange. » Et je crois que c'est vrai, ce sont des messagers du cœur de Dieu. Le culte de Saint-Michel s'est développé en Orient d'abord, dès le début du IVe siècle, les Coptes, nos frères Coptes, ce sont les héritiers de l'ancienne Égypte. Coptes, ça veut dire égyptien, enfin. Égyptos, Coptos et Coptes, ça vient de Égyptos, égyptien. Donc, les Coptes, qui sont les chrétiens, bon, ils sont très nombreux, vous savez, ils sont environ 8 millions dans ce pays musulman qu'est l'Égypte. On n'en parle pas suffisamment. Ils ont eu beaucoup à souffrir depuis l'arrivée des musulmans là-bas. Mais souvent, les musulmans ont su les comprendre et les accepter comme chrétiens. Et c'est comme ça qu'on a Boutros Ghali, qui est le secrétaire général des Nations Unies, qui est un copte d'Égypte. Boutros, ça veut dire Pierre, hein, je vous signale. Pierre Ghali. Donc, les coptes, dès le IVe siècle, ils consacraient jusqu'à 7 fêtes par an. à Saint-Michel. Souvent, Saint-Michel supplante une divinité païenne dont il conserve quelques attributs. Hein. C'est toujours le remplacement par le christianisme de toutes sortes de traditions païennes afin de transformer le cœur des gens et de les amener au Christ. Au VIe siècle, Saint-Michel comptait à Constantinople une dizaine de sanctuaires, d'églises importantes. Et à la même époque, son culte prend un grand essor en Italie. Et puis, au point qu'il y avait 800 églises qui seront vouées à Saint-Michel, et on dit souvent à l'ange. Quand on parle de Saint-Michel, dans la tradition ancienne, c'est l'ange. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a le Monte Sant'Angelo. Qu'est-ce que c'est que le Monte Sant'Angelo? C'est le Monte Gargano, dont je vous ai parlé lundi dernier, le mont Gargan, dans les Pouilles. C'est là, tout près, que le Père Pio, dont je vous ai parlé pendant une heure, le Père Pio stigmatisé, pendant 50 ans exactement, là, a vécu. C'est là, près du mont Gargan, Monte Sant'Angelo, c'est le mont de Saint-Michel, qui est devenu si célèbre, d'ailleurs, que les croisés, au Moyen-Âge, viendront y prier avant de s'embarquer pour la fameuse guerre sainte, pour récupérer les lieux saints d'Israël qui avaient été conquis par les musulmans. Et on peut dire que la dévotion à Saint-Michel s'est répandue aussi à Lyon dès l'an 505. Lyon, dans le sud de la France, au cœur de l'Église catholique française. D'ailleurs, vous savez que le cardinal archevêque de Lyon est le primat de toute l'Église catholique de France. On retrouve Saint-Michel à Arles en 512, à Limoges un peu plus tard, et puis au Mans, tout près de l'abbaye de Solesmes, ça, le Mans. Alors, le Mont Saint-Michel, en France, rivalisera finalement avec le Monte Gargano, le fameux Mont Saint-Michel. Qui ne connaît pas le Mont Saint-Michel, hein? Et finalement, Monseigneur Saint-Michel, comme les gens l'appelaient autrefois, notre archange, est devenu en France un saint national à cause de cette abbaye fantastique du Mont-Saint-Michel. Si vous n'êtes jamais allé au Mont-Saint-Michel, quand vous allez en France, n'hésitez pas. C'est un peu loin, évidemment, c'est sur l'Atlantique, à l'entrée de la Bretagne, en Normandie. Mais quelle merveille que de partir, n'est-ce pas, à pied sec, dans la mer qui s'est retirée, pour se rendre jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et quand on est rendu là, la mer revient, et le Mont-Saint-Michel redevient une île. Il faut faire très attention, d'ailleurs, s'y surveiller, afin que personne ne se noie quand la mer revient, parce que c'est l'océan, hein, et c'est terrible. Je me souviens d'un jour où j'allais un peu trop loin, comme ça, il y a eu des cris, des sirènes. Je ne me rendais pas compte que j'étais rendu loin, dans la mer, et que la mer risquait de me reprendre en revenant à la marée haute. Une légende veut, d'ailleurs, que dans les temps anciens, Saint-Michel et Satan se soient disputés la Normandie. Ce sont des vieilles légendes, et je vous la raconte parce qu'elle est bien sympathique, hein. C'est une façon de nous raconter, d'ailleurs, d'une façon plus simple, le fameux combat dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est relaté dans l'Apocalypse entre Satan et Michel, entre Lucifer, en somme, le porteur de la lumière, qui a refusé Dieu, et Michel qui a répondu, « Qui est comme Dieu, d'où son nom, n'est-ce pas ?» Alors, je prendrai, dit Satan à Saint-Michel, « Je prendrai tout ce qui pousse sur la terre. Et toi, Michel, tu garderas ce qui pousse dessous. » Mais à la récolte suivante, vous soupçonnez tout de suite, hein, il n'y eut que des navets, des carottes et autres raves, comme on dit. Alors, chacun son tour, proposa alors Satan. Aux prochaines moissons, je prendrai le dessous et tu garderas le dessus. Et cet été-là, il ne poussa que du blé, du seigle et de l'avoine. Alors le diable est furieux, dans cette légende de Normandie, de nos ancêtres, la plupart d'entre nous, Québécois, Français, qui sommes ici depuis des siècles et des siècles, eh bien le diable furieux ne s'avoua toujours pas vaincu. Et pour en finir, bien Saint-Michel a convenu avec lui que la Normandie et ses âmes, les âmes de nos ancêtres, appartiendraient à celui qui construirait le plus bel édifice. Alors Satan éleva un monument sombre et tordu comme lui, et Saint-Michel, lui, un palais de glace transparent et étincelant. Satan, se voyant vaincu, eh bien, le palais disparut avec les premiers rayons du soleil, mais Saint-Michel resta maître de la Normandie. C'est sympathique ces vieux contes anodins que nos ancêtres racontaient parce qu'ils n'avaient pas de télévision, pas de radio, pas de journaux, à se raconter de belles histoires. Et ainsi, ils sont nés de nombreuses légendes. Et ici aussi, au Québec, nous avions, chez nos ancêtres, tous ces contes et toutes ces choses merveilleuses qu'on nous racontait encore, que je me souviens quand j'étais jeune et qu'on allait à la campagne. C'était à un autre moment la fin de la guerre de Cent Ans et Saint-Michel venait d'y jouer un grand rôle en étant, comme vous savez, avec Sainte-Marguerite et Sainte-Catherine, l'une des trois voix qui avait inspiré Sainte-Jeanne d'Arc. Vous vous souvenez, hein? Et Charles VII, le roi, fit de lui, Saint-Michel, le patron de la France. Il est fréquemment présenté comme celui qui tiendra la balance des âmes au jugement dernier. On le voit, Saint-Michel, avec ses ailes. Il tient la balance lors du jugement dernier, disons. Ce sont des figures de style, c'est des images. Il ne faut pas attacher trop d'importance. Je vous en parle comme ça pour que vous puissiez distinguer ces choses, mais il faut les interpréter dans le fond de son cœur, d'une façon beaucoup plus sage que nous sommes jugés sur l'amour. Hein? Quand vous voyez Saint-Michel avec sa balance, là, pensez que vous êtes jugé sur l'amour. Il n'y a que l'amour qui compte aux yeux de Dieu. Et Saint-Michel est invoqué aussi par les agonisants, évidemment, pour obtenir une bonne mort à cause de ça. Saint-Michel est aussi invoqué contre la mort subite qui risque de survenir quand on est en état de péché. On l'invoque également pour les âmes du purgatoire. Ce sont de vieilles traditions populaires, hein, qui ont leur beauté si on sait avoir un cœur simple, un cœur d'enfant. Il ne faut pas être trop intellectuel devant ces vieilles traditions. Hein. La même balance dans les mains de Saint-Michel lui a valu d'être le patron, évidemment, des fabricants de balances et des métiers qui se servent de balance, comme les épiciers, les dépanneurs peut-être, les boulangers, les fromagers. On dit aussi que les escrimeurs, les maîtres d'armes, là, ceux qui fabriquent des armes, comme des fleurets, des épées, etc., se mettent également sous son patronage, hein, parce qu'il est toujours Saint-Michel représenté avec un sabre à la main, pour se battre contre Satan, contre les forces du mal. Hein. Ça a son charme, ces images-là. Hein. Et les doreurs aussi, ceux qui font de la dorure, on voit ça surtout en France. Alors, ça pourquoi? Mais c'est à cause des attributs guerriers, puis de la cuirasse dorée que porte Saint-Michel souvent sur ces images. Puis enfin, mais je termine avec ça, les marchands de vin. Oui, les marchands de vin, puis ceux qui font des tonneaux aussi, parce qu'il est représentant, il est souvent représenté, n'est-ce pas, foulant aux pieds le dragon, le fameux dragon dont il est question dans l'Apocalypse, hein, Satan. Et c'est là comme il faut fouler le raisin pour faire du vin, il est donc le patron des marchands de vin. De toute façon, je termine tout ça en disant que Pie XII y a ajouté en 1941, croyez-le pas, les radiologues, comme gens qui sont sous la protection de Saint-Michel. Je termine en vous rappelant le beau sens du nom de Saint-Michel. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Hein. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Et toujours se rappeler Vous qui portez le nom de Michel, ou vous qui connaissez des Michel, pensez toujours à ça. Qui est comme Dieu? Il n'y a rien comme Dieu. Et tout prend son sens en Dieu. Et c'est pour ça que les pauvres, les gens malheureux, comme les gens que nous voulons aider autour de nous, qui sont peut-être fort bien, et par l'amitié et la tendresse, on veut les aider, c'est Dieu qui les habite. Dieu est en eux particulièrement. Dieu est dans chacun de nous. Et qui est comme Dieu? Eh bien, rien. C'est le vide en dehors de Dieu. Et si on ne voit pas Dieu dans une fleur, si on ne voit pas Dieu dans l'espace magnifique rempli de galaxies, dans le soleil qui se lève, dans la pluie qui tombe, et si on ne voit pas Dieu qui est présent dans tout ce qui existe, mais qui n'est pas ce qui existe de matériel, il est séparé de sa création qu'il a faite, si on ne voit pas ça, je crois qu'on perd le sens de Dieu. Et saint François Xavier écrivait le 5 novembre 1549, il y a quoi, 450 ans, du Japon, il était à Kagoshima, il écrivait à ses confrères jésuites de Goa en Inde, il disait cette belle chose que je veux vous lire pour terminer sur saint Michel. Nous vivons avec grand espoir que Dieu nous fera la faveur d'amener les Japonais à croire en Jésus-Christ, car nous nous défions totalement de nos forces, mettant toute notre espérance en notre Seigneur et dans la très sainte Vierge Marie, sa mère, et dans les 9 cœurs des anges, prenant parmi eux tous pour protecteur spécial saint Michel Archange, prince et défenseur de toute l'Église militante, ayant grande confiance en cet archange, auquel a été confiée tout particulièrement la garde de ce grand royaume du Japon, nous recommandant spécialement à lui tous les jours, et en même temps à tous les autres anges gardiens, qui ont le soin spécial de prier pour la conversion des Japonais dont ils ont la garde, et ne manquant pas d'invoquer tous ces bienheureux saints, afin que, voyant là une telle perdition des âmes, ils ne cessent d'intercéder pour le salut de tant d'images et ressemblances de Dieu. C'est beau ça. Il parle des Japonais en disant qu'ils sont des images et des ressemblances de Dieu, et qu'ils devraient reconnaître le vrai Dieu qu'enseigne le christianisme. C'est beau. Alors, Saint-François-Xavier, le fameux missionnaire, le plus grand missionnaire peut-être, après Saint-Paul, et peut-être un autre missionnaire, mais je doute, continue en disant, « Ayant grandement confiance que toutes les négligences et fautes que nous commettons, en ne nous recommandant pas comme nous le devons à toute la cour céleste, seront récompensées par les bienheureux de notre sainte compagnie, de Jésus, les Jésuites, qui, là-haut, ne cesse de représenter nos pauvres désirs à la très sainte Trinité. » C'est une belle lettre de saint Michel. Très, très belle lettre. Et voici quelques mots maintenant sur Raphaël, l'archange Raphaël. Les archanges Michel et Gabriel sont plus connus que Raphaël. Il a un très beau nom quand même. Raphaël, ça veut dire « Dieu a guéri ». On le découvre dans l'Écriture, d'ailleurs dans la Bible, à travers ce roman un peu populaire que Dieu a inspiré à un des conteurs qui ont écrit des livres dans la Bible. Car il y a des conteurs, hein, des contes pour soutenir la foi et l'espérance du peuple juif qui était éprouvé. 5 siècles donc avant Jésus-Christ, le petit reste d'Israël est en exil à Ninive. Et parmi les captifs se trouve un juste, qui est nommé Tobit. Il est marié à Anna, dont il a un unique fils, et rendu aveugle par suite de son zèle à ensevelir les morts. Hein? Le livre de Tobit, vous connaissez ça, hein? Eh bien, ce Tobit essuie les sarcasmes de sa femme et ses amis. Où sont tes bonnes œuvres? Qu'est devenue ton espérance? Et obstiné dans l'amour de Dieu puis des autres, bien, il laisse dire. Il instruit son fils, puis il dit « Bénis Dieu en tout temps ». Et sa sainteté allait trouver sa récompense. Je vous fais grâce de toute l'histoire. À la fin, sur l'ordre d'Azarias, Azarias, le fils a frotté les paupières de Tobit avec le fiel d'un poisson, et elles s'ouvrirent à la lumière. Alors restait, évidemment, à rétribuer ce guide qui avait donné ce conseil. Alors ce compagnon mystérieux s'est fait connaître, et il a dit, « Je suis Raphaël, l'un des sept anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur et pénètrent en sa présence. » Vous trouverez ça dans le livre de Tobie, il y a 12 chapitres, c'est un conte fort charmant à lire. Donc cet archange qui était dissimulé sous le pseudonyme d'Azarias, qui veut dire « Dieu a secouru, Dieu a guéri », est le guide du jeune Tobie. Nous sommes donc de retour à Rencontre spirituelle. Aujourd'hui, en ce 29 novembre, c'est la fête de trois grands archanges, Michel, Raphaël et Gabriel. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Alors, je continue avec Raphaël, n'est-ce pas, qui a guéri le père du jeune Tobie. Raphaël, c'est donc un guérisseur, guérisseur du père de Tobie, un ange gardien, quoi, un ange médecin. C'est le guide des voyageurs aussi. Il était invoqué ainsi puisqu'il a accompagné Tobie dans un voyage. Et les prières liturgiques de ce qu'on appelait autrefois l'itinéraire, je me demande si on récite ça encore. Je me souviens que dans le monastère de Saint-Benoît-du-Lac, quand un moine partait en voyage ou partait pour faire se rendre à Montréal, etc., il y avait des prières de l'itinéraire. Et avant leur départ aussi, d'ailleurs, les évêques autrefois et les équipages des missionnaires aussi s'ouvraient par cette une antienne qui était très belle, de Gamma. Il y avait un de ces navires qui portait le nom de Saint-Raphaël. Et ce grand navigateur avait, vous savez, doublé le cap de la Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, hein. Il avait passé par là en bateau, c'était très dangereux à cause des tempêtes terribles qu'il y a dans ce coin-là. Et on appelle ça le cap de la Bonne Espérance d'ailleurs. Il avait consacré sur la côte africaine une stèle, hein, à cet archange en 1497. C'est un ange gardien donc, mais c'est aussi le protecteur, disait-on, des adolescents qui quittaient la maison paternelle, hein. On disait ça en latin, adolescentium pudici defensor, le défenseur de la pudeur des adolescents. Alors on l'invoquait dans les bonnes familles catholiques afin de les préserver, de faire des bêtises. Et là, je me demande si quand les adolescents quittent le foyer pour aller s'installer avec leur petite amie, les parents récitent encore de telles prières. De toute façon, Saint-Raphaël, comme l'indique son nom en hébreu, je vous l'ai dit, Dieu a guéri, est aussi le guérisseur, donc il est le protecteur des médecins, des infirmières, des soignants de toute spécialité. Et même la profession d'oculiste, et peut-être trop récente, en tous les cas, on dit pas que Raphaël est le patron des oculistes. Peut-être que M. Farah va se charger de voir à ce que Saint-Raphaël soit le protecteur des oculistes et de tous ceux qui soignent nos petits handicaps de la vue. Et quant aux fiancés, aux jeunes mariés, beaucoup pensent que le démon Asmodée a pris sa retraite. Mais combien choisissent, comme parole de Dieu pour leur mariage, la belle prière des jeunes mariés d'Ecbatane que l'on trouve dans Tobie, chapitre 8, dans la Bible, le livre de Tobie, chapitre 8, versets 5 à 10. Allez vérifier, c'est très beau. Je n'ai pas le temps de vous la lire, mais je passe maintenant à Saint Gabriel. Saint Gabriel, on trouve ça dans le livre de Daniel, dans la Bible encore, au chapitre 8. Il est écrit, « Moi, Daniel, j'entendis la voix d'un homme qui criait, Gabriel, c'est le prophète Daniel qui parle, Gabriel, fais comprendre la vision à celui-ci. » Il vint, puis il dit, « Comprends, fils d'homme, que la vision est pour le temps de la fin. je vais te faire comprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Il y a d'autres textes aussi dont je vous fais grâce que l'on trouve dans Daniel, comme « Je parlais en prière quand Gabriel, cet homme que j'avais vu précédemment dans les visions, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'oblation du soir. » Il y a d'autres textes aussi, je ne peux pas tout vous les lire, mais dans Saint-Luc, il y avait ce beau texte que vous connaissez, tout le monde le connaît, il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie. À l'intérieur du sanctuaire, lui apparut un ange debout à la droite de l'autel de l'encens. Et l'ange lui dit, « Ta femme enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » L'ange Gabriel, donc, il y a aussi ce texte dans Saint-Luc encore. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Et cette jeune fille s'appelait Marie. Et l'ange entra auprès d'elle et dit, « Sois joyeuse. » C'est le « Je vous salue Marie », quoi. « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Voici que tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. » C'est, vous savez, c'est la fête de l'Annonciation, le 25 mars, hein, on rappelle ça. Nous avons donc là les trois passages des Écritures où figure le nom de l'archange Gabriel, qui veut dire « homme de Dieu ». Gabriel, c'est l'ange des Annonciations. L'ange par excellence, puisqu'il est avant tout messager, comme je vous ai dit au tout début. Il semble chaque fois, d'ailleurs, se présenter sous une forme humaine. Ce qui ne va pas de soi, évidemment. Hein? Alors, j'aimerais bien vous dire que les apparitions d'anges ou de démons, dans la mesure où elles sont vraies, là, il faut pas croire à tout, hein, il faut avoir un peu de sens commun. Mais ces apparitions sont à prendre comme des artifices. Hein. Parce que quand ils se donnent des formes visibles, ils les revêtent pour que nous les voyons comme ça. Mais en fait, ils n'en ont pas, ce sont de purs esprits. Je ne veux pas nier par là les manifestations angéliques sous des formes visibles. Mais je veux souligner qu'ils peuvent signaler leur présence sans forcément recourir à des apparitions. Ça peut être une parole intérieure. Et les peintres, eux, s'ils sont obligés de donner des corps aux anges, mais jusque de la fin du XIIIe siècle, dans les représentations de l'Annonciation, ou de l'annonce faite à Marie, comme on peut dire, l'ange est debout, et c'est Giotto qui va le mettre à genoux, et qui va faire école au XIVe siècle, au début du XIVe siècle. Et dans l'Antiquité, les apparitions des anges aux hommes constituaient un événement d'une très grande portée, puis ces derniers tenait pour un honneur inestimable de pouvoir témoigner aux anges leur vénération. Et ça convenait pas que l'ange s'incline devant un homme jusqu'au jour où est apparue cette créature humaine qui surpasse tous les anges par sa plénitude de grâce, par sa familiarité avec Dieu, par sa dignité. Cette créature, c'est une petite fille, une petite juive qui est Marie. Et pour connaître ou reconnaître cette supériorité, l'ange va lui témoigner sa vénération par ces mots en disant « Je vous salue, Marie ». Depuis le 12 janvier 1951, c'est Gabriel, qui est le messager de la bonne nouvelle, qui patronne officiellement tous les employés des télécommunications. Donc, nos trois archanges figurent dans les textes dès le début de l'Église. Chez les Coptes d'Alexandrie, en Égypte, ils ont même chacun leur fête, dès le IVe siècle. Il n'empêche que Raphaël et Gabriel ne rejoindront Michel dans l'ensemble des livres, comme qu'on appelle les sacramentaires, qu'à partir du 13e siècle, et ça prend du temps, hein. Il a fallu attendre jusqu'en 1921 pour que Benoît XV, le pape Benoît XV, étende la fête de Saint-Gabriel à toute l'Église. Hier, il n'y a pas longtemps, avant le Concile, on fêtait Saint-Gabriel le 24 mars, dans certains milieux, juste la veille de l'Annonciation. Saint-Raphaël était célébré le 24 octobre, Saint-Michel, toujours premier, lui, c'était le 29 septembre, et le 8 mai aussi, souvent. Mais après la réforme liturgique du dernier concile, on honore tous les trois archanges, ensemble, le 29 septembre. Alors, est-ce que c'est parce que l'Église veut remettre les archanges à leur place? C'est plutôt autre chose. C'est une certaine purification de l'année liturgique. C'est une façon de remettre tous ces trois saints le même jour, et comme ça de donner dans le calendrier liturgique une place plus importante au Seigneur Jésus, en ayant beaucoup plus de fêtes, de féeries, où il n'est pas question vraiment des saints, mais il est question vraiment de Dieu et du Christ. Mais si le culte des anges, comme je vous ai dit, remonte au début du christianisme, il y a eu des excès, hein? Il faudrait pas qu'on retombe dans ces excès qui ont été condamnés par le fameux concile de Laodicée. Il est permis de croire et de dire que la dévotion ne s'est développée, comme je viens de vous dire, qu'au Moyen-Âge, c'est dû à Saint-Bernard, dû aussi à un évêque de Rodez, François d'Estaing, qui s'est fait, lui, l'apôtre de la dévotion aux anges gardiens. Et à travers les anges gardiens, mais en 1516, dans une église de Palerme, en Sicile, qui était dédié à un martyr, Carme, eh bien, on a trouvé une fresque qui était oubliée, qui est reparue sous le badigeon, comme on dit. On avait recouvert la fresque, en nettoyant, on l'a retrouvée, donc, en 1516. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On n'a pas trouvé trois archanges, on en a trouvé sept. Les inscriptions nous donnaient Michel sous le nom de Victoriosus, le victorieux, Gabriel, le nuncius ou l'annonciateur, Raphaël Medicus, tu le dis, hein, Raphaël le médecin. Alors, le premier portait la palme du triomphe et l'étendard blanc à croix rouge, comme on le voit souvent. Le second portait une lanterne et un miroir destiné à refléter les ordres divins, là, qui étaient messagers. Puis le troisième, il portait des remèdes. Mais qui étaient les quatre autres archanges? Vous allez entendre des noms très surprenants, comme Uriel, quelqu'un qui était très connu à Montréal, à la place des Arts, Uriel Lift. Uriel Fortis Socius, c'était écrit sur la fresque, c'est-à-dire le compagnon fort, ou de la force, on veut. Uriel le brandissait une épée nue. Il foulait des flammes. C'est une tradition qui remontait à saint Ambroise, archevêque de Milan. Ça provient, ça, du livre d'Esdras dans la Bible. Et on peut parler longtemps d'Uriel comme ça. Les trois derniers, il y avait Jéhudiel, rémunérateur, c'est-à-dire il était muni d'un fouet et d'une couronne, parce qu'il était l'exécuteur des sentences divines. Voyez-vous la foi dans ce Dieu vengeur, le Dieu punisseur. Alors, il y avait donc Jéhudiel. Il y avait Barachiel aussi, adjutor, qui portait des roses blanches dans son manteau. Lui, il était un aide, adjutor. Enfin, Séaltiel, orator, c'est le prédicateur, quoi. Les mains jointes sur la poitrine. Porte-parole de l'humanité repentante devant le juge, celui qui prie et qui intercède auprès de Dieu. Il y a eu comme un élan des âmes pieuses, il y a toujours des âmes trop pieuses dans l'Église, hein, qui se sont dirigées vers cet esprit que la Bible, d'une autre façon, nomme les sept yeux, les sept voies de Dieu, hein, dans l'Apocalypse, prévoit Donc, toujours que ces anges, ces archanges nous préservent de la colère de Dieu. Et toutes ces dévotions terribles se sont répandues dans l'Église à travers les siècles, et heureusement, elles sont plutôt disparues. Mais en 745, au Concile de Rome, le pape Zacharie, un pape remarquable, avait formellement condamné tout autre nom d'ange que Michel, Gabriel et Raphaël. C'est une condamnation qui a été réitérée par le 16e chapitre du Concile d'Aix-la-Chapelle en 789. Je voudrais bien mettre en garde les gens qui publient encore aujourd'hui des textes qui nous parlent d'Uriel et des autres et qui nous entraînent dans toutes sortes de dédales, à mon sens, inutiles. Les noms, les attributs qu'on donnait à ces anges ne sont pas justifiables par la Bible. Il n'y a rien vraiment, sauf peut-être un peu dans le livre d'Esdras. Ça a suscité d'abord chez le pape Pie IV une résistance. Et puis, petit à petit, les gens se sont mis à lutter contre les décrets des papes. Et l'Église a eu beaucoup à lutter contre ça. À Rome, il y a une réaction qui s'est produite contre les excès d'un culte que orthodoxe dans son désir d'honorer les sept premiers anges aboutissait à invoquer quatre personnages que leurs noms, leurs fonctions, leurs attributs n'empêchaient pas d'être parfaitement imaginaires. Ce sont des personnages imaginaires. Et cette prudence s'imposait. Les noms des quatre derniers archanges ou anges avait dû être effacé de toutes les peintures qui les représentaient. Mais le culte des sept esprits à Rome disparaissait devant celui de la Vierge, reine des anges. L'Église a toujours eu à lutter contre toutes sortes de superstitions, toutes sortes de choses qui se sont répandues dans l'Église. Et heureusement que nous avons une autorité qui parfois abuse de son pouvoir, dit-on souvent, et on se plaint dans l'Église. Bon, d'accord, je suis bien d'accord. Parfois, l'Église, dans son pouvoir, abuse, mais souvent, l'Église nous aide et nous dirige. Léon XII, à cause, en 1825, à cause des noms qui étaient donnés à ces archanges, a dû repousser toutes les demandes qui lui étaient faites d'accepter cela. Ça s'est répandu en Italie, en Allemagne, mais le culte des sept esprits a finalement été écrasé dans l'Église. Si tout cela peut n'être regardé que comme des rêveries, des petites rêveries pieuses, il en reste pas moins parfaitement recommandable d'invoquer les anges. On connaît Michel, Gabriel et Raphaël, et je crois que cela suffit, et n'exagérons pas dans le nom des anges. Il y a une coutume actuellement qui se répand, où on dit qu'on peut trouver le nom de son ange gardien par des méthodes plus ou moins ésotériques. Attention, je vous supplie, attention. On peut s'appuyer sur les textes de certains hommes ou femmes pieuses, mais je crois qu'il est mieux de se référer à des ouvrages sérieux. Je vous réfère à un des ouvrages les plus sérieux, c'est celui du cardinal Jean Danielou, décédé en 1974, « Les anges et leur mission ». C'est un très beau petit livre publié dans la collection Essai chez Décly. « Les anges et leur mission d'après les pères de l'Église ». Il est dit au verso du livre, « Il est temps de prendre au sérieux le rôle des anges auprès de Dieu, au service des hommes, depuis la création jusqu'au retour du Christ. » Et ainsi, guidé par les pères de l'Église, le cardinal Danielou nous invite à découvrir la face cachée de la création du monde visible et invisible. C'est une face cachée du monde, le monde invisible, le monde des anges. Je vous rappelle qui est le cardinal Danielou, qui est mort à 69 ans de façon tragique en 1974. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Je l'ai beaucoup aimé, le cardinal Danielou, pour son humilité extraordinaire. Lui qui était un des cerveaux les plus brillants de l'Église du XXe siècle. Je l'ai déjà vu attendant l'autobus sur les Champs-Élysées, faisant la queue avec tout le monde. Je l'avais fait monter dans mon taxi avec grand joie. Et quand je l'avais interviewé, il habitait chez les petites sœurs des pauvres dans une petite cellule de rien du tout. Lui, cardinal de la Sainte Église, jésuite, savant, vivait très humblement. Il était d'une obéissance, toutes les choses que je lui demandais en tant que réalisateur, je suis bien obligé des fois d'ordonner, de demander quand on est réalisateur. Il était d'une gentillesse exquise. Il s'est fait jésuite en 1929, à 24 ans. Il a été ordonné en 1938. Il a été nommé cardinal 5 ans avant sa mort, en 1969. Et c'est le cofondateur de cette grande collection Sources chrétiennes, une immense collection des textes sacrés des pères de l'Église. C'est fantastique le travail de cette collection. Il est un des cofondateurs. Il est par ses nombreux travaux à l'origine du grand renouveau des études des pères de l'Église dans le monde chrétien. Il a été élu à l'Académie française 2 ans avant sa mort, en 1972. Je vous recommande aussi un beau livre, Les Anges de Philippe Faure. Très petit livre de 125 pages. Encore, je ne vous recommande pas les gros livres sur les anges. On n'a plus le temps de lire ça. Hein. Mais ce petit livre, Les Anges de Philippe Faure, est paru dans la belle collection Bref, publié aux éditions du Cerf et aux éditions Fides à Montréal. En 1988, ce petit livre, il est très, très bien fait, et il nous donne un aperçu de ce que sont les anges, en somme, et les anges dans l'histoire aussi, et puis les thèmes, les enjeux de ce qu'on appelle l'angélogie. L'angélogie, l'étude des anges, quoi. Et est paru récemment un petit livre pour ceux qui se rapprochent un peu de l'ésotérisme. Oh, c'est pas vraiment un livre ésotérique, c'est un livre charmant. Un livre anodin, un livre gracieux comme une fleur qui a 91 petites pages et qui s'est intitulé « Un ange auprès de moi » ou « À la table ronde ». C'est écrit par Tobias, vous reconnaissez le nom de Toby, n'est-ce pas? Tobias Palmer. Et Tobias Palmer, son livre a été traduit de l'anglais et publié à la table ronde. Charmant petit livre, anodin. Paru donc cette année, en 1995, qui se lit d'une traite, et je peux vous en lire un petit extrait comme ça. Oui, des anges habitent le ciel. Oui, des anges habitent cette terre, ici et maintenant. Ils sont la preuve de la présence de Dieu dans l'univers, et les voix, V-O-I-E-S, les voix de sa révélation, de sa promesse d'un paradis, et de son amour immédiat pour nous tous. C'est bien écrit, c'est bien fait, et je vous le recommande. Je tiens, avant de vous quitter, à vous dire un mot du bienheureux Jean de Montmirail, qui est né dans un beau château au XIIe siècle. Il est mort en 1217. Il avait tout ce qu'il voulait. C'était l'héritier de une grande fortune, il était beau, il était tendre aussi, il était délicat, il était souriant, il attirait tout le monde, quoi. Un enfant absolument merveilleux. Il était fils du seigneur de Montmirail, Jean de Montmirail, lui son nom, à ce bienheureux. Sa mère s'appelait Hildiarde, quel nom, d'Oisy, d'apostrophe Oisy, c'était un nom fameux à l'époque. Et sa mère est morte très tôt. Son père s'est remarié, puis heureusement, il a eu une très bonne mère dans sa belle-mère. Elle lui disait sans cesse « Mon fils », elle l'appelait « Mon fils ». La conquête du ciel est difficile aux riches. Pourtant, pour y arriver, ils ont un chemin très sûr. La pauvreté et l'amour. Un riche qui a un cœur de pauvre et qui est détaché de ses richesses, peut recevoir Dieu dans son cœur. Cependant, notre Jean de Montmirail grandissait, surtout en science, moins en vertu. Sa foi profonde l'anime, mais cette foi qu'il a reçue au foyer paternel se dissout peut-être un peu quand il étudie le droit. Et puis, il cherche à devenir un parfait chevalier. Or, comme il est très beau et qu'il a une grande allure martiale, sa gaieté faisait la joie de son père, mais ça l'a mené à la cour du roi Philippe Auguste, et là, il a eu tellement de succès que la faiblesse de ce Jean s'est révélée, et le luxe l'a envahi. Il a cherché la gloire, il n'en avait jamais assez. Alors il cherchait aussi les ors, les pierreries, les joyaux. Il s'habillait de vêtements magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'il fallait arrêter? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour arrêter ce pauvre jeune homme? Alors, c'est ni la maladie, ni les désastres. Il a fallu qu'il entende la voix d'un religieux intelligent. Et ce religieux a eu la charité de lui dire quelques mots. Et on peut considérer ça comme un miracle, finalement. Le miracle de la vertu de l'amitié. Le miracle qui opère la conversion totale, parce que le jeune Seigneur est ébloui par les paroles. Et si nos amitiés étaient comme celles de ce religieux, peut-être que nous aiderions beaucoup plus de gens. Il avait, dans l'étourdissement des plaisirs, oublié que sa femme, Elvide de Dampierre, ne devait pas seule élever ses enfants. Alors, il a pris en main leur éducation, il a commencé aussitôt à expier sa négligence, et les enfants, en effet, ont méprisé l'intervention tardive de ce père qui s'était pas occupé d'eux. Il s'est mis à s'occuper de ses vassaux, c'est-à-dire des gens qui travaillaient pour lui. Et puis petit à petit, il est devenu un homme qui aimait les pauvres. Le pauvre, le malade, deviennent pour lui des êtres sacrés. Et alors, il ensevelissait de ses mains les pauvres. Et vers la fin de sa vie, Jean de Montmirail s'est fait finalement, étant veuf, religieux dans une abbaye cistercienne. Et ce fut pour lui une immense confusion, parce que les seigneurs, s'armant alors pour une nouvelle guerre, ont prétendu qu'il avait fui. Et Jean de Montmirail, qui s'était identifié au Christ, était devenu souffrant. Et en 1217, à l'âge simplement de 52 ans, est allé vers le Christ au paradis. Il a été l'une des très grande figure de son époque, car son départ de la cour du roi avait jeté un éclat mystérieux sur les vertus chrétiennes. Et nombreux furent les gens qui l'ont imité, qui ont quitté le luxe, qui ont simplifié leur vie. Mais ce qui a déterminé la conversion profonde et étonnante de Jean de Montmirail, ce fut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les paroles d'un ami, les paroles d'un bon prêtre, les paroles qui viennent de l'Évangile, paroles qui sont rarement prononcées par quiconque. Et c'est bien dommage. C'est dans cette intention que nous avons fondé Radio Ville-Marie ici, afin de vous faire entendre de plus en plus des paroles qui viennent de l'Évangile et du Christ Jésus, et qui viennent aussi d'autres sages, et je vous parlerai bientôt de quelques grands sages musulmans, de grands sages bouddhistes ou protestants, et d'autres religions.